Bonjour les collègues, vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, les deuxièmes jeudis de chaque mois de 15h à 15h30 sur Radio Galère. La Gueule Ouverte, une émission qui fait monter la yoli, qui boulègue les consciences et qui dit stop aux connos. Eh ben bonjour aux auditeurs de Radio Galère, vous êtes bien en 2015, vous écoutez l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, c'est la 18e du genre, et avec moi aujourd'hui au micro et jusqu'à la fin de l'émission, la belle Christine. Bonjour Christine.
Bonjour belle Hervé.
Ah ça c'est gentil, hein. Pourtant j'étais pas à la marche non mixte de samedi soir. Hein,
mais moi
ça
non plus, mais le 8 mars oui.
Bon, alors aujourd'hui on va évoquer un événement international qui se tient tous les deux ans et qui aura lieu cette année à Tunis du 24 au 28 mars, c'est le Forum social mondial.
Et oui Hervé, donc du 24 au 28 mars, des milliers de personnes, citoyens, représentants des mouvements sociaux, d'ONG, d'associations et de syndicats, membres de collectifs militants, vont se retrouver à Tunis pour construire ensemble un autre monde possible. Le mot d'ordre fédérateur du mouvement altermondialiste. Mais peux-tu nous dire ce qu'Attaque a à voir avec ça ?
Ah ben, l'association Attaque a joué un rôle fondateur dans la création du premier forum social mondial, qu'on appelle le FSM pour aller plus vite. Donc le premier forum social mondial qui avait lieu à Porto Alegre et au Brésil en 2001, symboliquement au même moment que le forum économique mondial de Davos, qui réunit chaque année les plus grands représentants de l'économie néolibérale, dont les effets, on le constate tous les jours, sont dévastateurs pour les peuples. Depuis, les forums sociaux mondiaux qui sont succédés à Mumbai en Inde, à Nairobi au Kenya, Belém au Brésil, Dakar au Sénégal et bien d'autres lieux ont été de grandes étapes pour le mouvement altermondialiste.
Alors quels sont les objectifs de ce forum social mondial ?
Alors pour résumer, l'objectif du forum social mondial, c'est de rassembler les acteurs des sociétés civiles qui refusent la domination néolibérale et de favoriser l'apprentissage d'une nouvelle culture politique, mutualiser les résistances, les propositions, les alternatives et construire des plateformes d'action commune.
Mais c'est la deuxième fois depuis sa création que le Forum social mondial a lieu en Afrique du Nord, dans la région Maghreb-Mashrek, puisque le dernier forum de 2013 avait déjà eu lieu à Tunis. Il y a une raison particulière à ça ?
Oui, le Forum social mondial de Tunis en 2013, ça a été l'un des forums sociaux les plus réussis depuis le début de l'existence de ces forums sociaux. Le premier, donc, que je disais tout à l'heure, à Porto Alegre au Brésil en 2001. Certainement le meilleur des forums organisés jusqu'ici en Afrique, avec un processus révolutionnaire, des soulèvements populaires un peu partout dans le monde arabe qui n'y sont pas pour rien. Aujourd'hui, on constate qu'après avoir été, dès 2011, grâce aux révolutions et aux mouvements démocratiques, une source d'espoir pour elle-même et une source d'inspiration pour le reste du monde, la région connaît des développements qui inspirent une grande inquiétude, d'où le souhait des organisateurs de revenir à Tunis une nouvelle fois.
La situation post-printemps arabe, donc en Afrique du Nord, a connu certains reculs. Quelle est votre évaluation de la situation dans le contexte politique de la région quant à la tenue du FSM 2015 à Tunis ?
Ben, si les soulèvements populaires en 2011 ont pu faire chuter la tête des régimes en place en Tunisie, en Égypte, ils n'ont pas pour autant permis un changement radical du système. Ils ont permis d'amener quelques petites évolutions dans d'autres pays arabes, comme au Maroc par exemple, mais n'ont pas entraîné de profondes transformations politiques et économiques. Le processus révolutionnaire est un long combat qui nécessite du temps, de l'énergie et une force politique qui le conduise.
Ah, ça se discute. Mais si tu le dis. Alors, quels sont les enjeux de ce Forum social mondial ?
Alors, depuis sa première édition en 2001, donc à Porto Alegre, le Forum social mondial est devenu un des lieux incontournables où s'élaborent de manière ouverte les campagnes, revendications, mobilisations des mouvements sociaux et citoyens. Le Forum social mondial 2015 se tiendra à cet égard dans un contexte particulier, 4 ans après l'émergence d'un intense nouveau cycle de lutte et de mobilisation, des révolutions tunisiennes et égyptiennes, à Syriza en Grèce, en passant par Podemos en Espagne, Occupy Wall Street, apparaissent de nouveaux acteurs, de nouvelles revendications, de nouvelles formes d'organisation. Et ces luttes s'inscrivent dans la continuité de la dynamique altermondialiste avec laquelle elles partagent de nombreuses revendications, notamment le refus du primat de l'économie et de la finance sur le social et sur l'écologie. Et ce Forum social mondial sera une nouvelle opportunité de construire des ponts entre les mobilisations de 2011 et la dynamique altermondialiste.
Pour autant, 4 ans après son démarrage, ce cycle de mobilisation a connu des fortunes diverses. Hein, défaite électorale des partis politiques progressistes en Égypte, victoire des sociaux-libéraux en Amérique du Nord et en Europe, si on excepte la Grèce, bien sûr, renforcement des partis xénophobes un peu partout en Europe, la guerre en Libye, la répression aveugle du soulèvement populaire en Syrie. Alors, de quoi allez-vous parler devant un tableau si sombre ?
En effet, oui. Mais ce FSM sera l'occasion d'avancer dans les discussions sur les processus révolutionnaires, sur la construction de solidarité avec les acteurs de ces luttes, ainsi que sur le devenir du Forum social mondial lui-même comme espace s'ouvrant à ces nouveaux acteurs. Il permettra en outre d'approfondir les travaux sur des sujets régulièrement discutés lors des forums sociaux. Le droit des femmes, l'accès à l'eau, la justice climatique, les guerres, les biens communs, les dettes, etc., tout en s'ouvrant à de nouvelles thématiques, par exemple les accords de partenariat entre l'Union européenne et les pays de la rive sud de la Méditerranée, les grands projets inutiles et imposés, les gaz de schiste, les délocalisations.
Alors, peux-tu nous dire quelles sont les principales forces politiques tunisiennes qui organisent sur place ce forum social ?
Oui, on peut citer entre autres le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, le Conseil de l'Ordre des avocats tunisiens, la Ligue tunisienne des droits de l'homme, l'Union des diplômés chauffeurs, Attaque Tunisie, l'Association Femmes démocrates de Tunisie, l'Association des femmes tunisiennes pour la recherche et le développement au niveau mondial. Plusieurs centaines d'associations et de collectifs de tous les continents, dont évidemment Attaque France. Au 1er mars, on dénombrait la présence annoncée à ce Forum social mondial de plus de 3000 organisations originaires de 120 pays et près de 2000 propositions d'activités et d'ateliers.
Alors, 14 ans après sa naissance quand même, quelle est la définition, le concept central du Forum social mondial, selon la vision du Maghreb ?
Alors, on pourrait dire que le FSM est un espace pluriel et diversifié, mais c'est aussi un processus qui se développe avec le temps, avec des hauts et des bas. Ce n'est pas un simple événement. Les mouvements sociaux sont l'une des composantes essentielles de cette dynamique et de ce fait, leur présence et leur participation active sont doublement importantes. D'un côté, ce sont les mouvements sociaux dans leur diversité qui font la force du forum et son rayonnement. Et d'un autre côté, c'est le forum lui-même, en tant qu'espace, qui permettra aux mouvements sociaux de faire converger leurs luttes spécifiques et de briser ainsi l'isolement des actions.
D'après ce que tu dis, donc, le Forum social mondial permet d'articuler et de renforcer la lutte contre le néolibéralisme et d'une manière générale contre la globalisation capitaliste et de contribuer à inverser les rapports de force au niveau mondial. Finalement, le Forum social mondial reste plus que jamais un espace vital pour les mouvements sociaux qui luttent pour que les peuples sauvegardent leur dignité, restent maîtres de leur destinée, conquièrent de nouveaux droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux. Et qui construisent des alternatives au néolibéralisme plus que jamais nécessaire.
Tu as parfaitement résumé le truc. Donc avant d'entamer la deuxième partie où on va essayer de faire le point sur la situation politique en Tunisie, on va se faire une pause musicale avec la reprise d'un classique de la chanson française qui s'appelle « La complainte de la butte ». Ouais, mais c'est joué par qui ? Eh bien, par Zérad Trio. Ah, la complainte de la butte, écrite et tirée du film de Jean Renoir, French Cancan, et interprétée au oud et à l'accordéon, c'est de la bombe, bébé Christine. L'album s'appelle Les îles du désert, et c'est comme un voyage autour du monde, en 12 étapes. Allez, c'est parti. Thank you. évoquer maintenant brièvement la situation politique en Tunisie où, 4 ans après la chute de Ben Ali, la révolution tunisienne est loin d'être achevée. La situation économique du pays est très mauvaise. Le chômage des jeunes, notamment, atteint des proportions alarmantes. L'industrie touristique, qui est l'une des principales ressources du pays, n'a pas repris durablement. Et les relations entre le patronat et les syndicats et l'État restent très tendues.
Oui, mais avant, on va évoquer un changement fondamental dont on a peu parlé dans les médias français. C'est celui de l'instauration d'une nouvelle constitution depuis le 26 janvier 2014, qu'on appelle en arabe « Destour ».
Oui, ça signifie que les Tunisiens ont décidé qu'ils voulaient continuer à vivre ensemble et qu'à la fin des fins, ils se sentent plus proches les uns des autres que des dogmes auxquels ils adhèrent. Un peuple dont les citoyens n'ont pas envie de s'entretuer, surtout lorsqu'ils voient de tous côtés leurs voisins le faire, on peut appeler ça une nation.
C'est vrai que les négociations ont été longues et qu'à tout moment, on a redouté qu'elles n'échouent. Mais les Tunisiens y sont arrivés et c'est quand même une réussite. À titre d'illustration, j'ai choisi un article de cette constitution. Il concerne les libertés et les droits des femmes. Donc, que lit-on dans l'article 46 ? L'État s'engage à protéger les droits acquis de la femme, garantit l'égalité des chances entre la femme et l'homme pour assumer les différentes responsabilités et dans tous les domaines, il prend les mesures nécessaires afin d'éradiquer la violence contre la femme.
Et pourtant, la situation n'est guère réjouissante et le fait que l'ancien parti islamiste Ennahda ait été battu aux dernières élections n'y a rien changé.
Alors justement, parlons-en de ces nouvelles élections. Le 5 février dernier, le Parlement tunisien a voté à 81,5% la confiance au nouveau gouvernement, dont la mission est de tenter, de, je cite, « refermer la parenthèse révolutionnaire ouverte le 14 janvier 2011 ». Quelle est l'orientation des partis présents au gouvernement ?
Qui se réclament du modernisme, de l'islamisme ou franchement du libéralisme, ils n'ont en fait que des divergences de façade. Ils le savent très bien. Aucun n'a véritablement de programme, encore moins un projet pour cette Tunisie qui a rejeté l'austérité et les restructurations néolibérales et qui continue de refuser d'en supporter les frais. Ce qui compte pour eux, c'est de convaincre les vrais maîtres de la Tunisie, à savoir le capital étranger, qu'il représente une alternative viable à l'ancien pouvoir dictatorial. Et il va de soi qu'ils poursuivent sa politique néolibérale sans se soucier du droit des Tunisiens à disposer librement d'eux-mêmes.
Depuis plus de 2 ans, les deux principaux partis, donc Nida Tounes et Ennahda, ont passé une grande partie de leur temps à expliquer que leur projet était incompatible. Alors comment expliquer qu'ils se retrouvent aujourd'hui dans le même gouvernement ?
Bien, leurs divergences de façade sont en train de passer à la trappe. Fini pour Nida Tounes les appels à l'alliance large des démocrates pour la défense de la société civile contre la menace islamiste. C'est des appels qui lui ont permis de se construire puis de gagner les élections. Fini aussi les discours du parti islamiste sur la nécessité de défendre la révolution contre les représentants de l'ancien pouvoir de Ben Ali. Une fois les élections passées, les masques sont tombés. L'heure est à l'union sacrée et il est clair que les différentes expressions de la contre-révolution se préparent en s'unissant à passer à la contre-offensive contre les classes laborieuses et la jeunesse qui revendique une vie meilleure et un avenir.
Alors, quelle va être la politique économique et sociale du gouvernement ?
Le train est déjà lancé, il continue sur la même voie sans issue, tout en essayant d'accélérer, d'aller plus vite. Concrètement, le gouvernement veut poursuivre la mise en œuvre du second plan d'ajustement structurel qui est imposé par le FMI et la Banque mondiale, mettre en œuvre aussi des nouveaux accords de libre-échange avec l'Union européenne. Donc on voit la casse sociale va s'amplifier, ce qui risque fort de rendre de nouveau la situation explosive.
Alors, un des exemples frappants de cette collusion des partis au pouvoir est la loi des finances 2015, qui vient d'être adoptée par la nouvelle assemblée de parlementaires tunisiens et qui donne, une fois encore, la primauté au remboursement de la dette et à l'application de recettes néolibérales sous la houlette des institutions financières internationales, exactement comme sous la dictature de Ben Ali. Cela a été bien clair lors du vote du budget de l'État de 2015, qui a été voté par tous les députés de Nida Tounes et d'Ennahda.
Mais surtout quand on sait que cette loi de finances prévoit la privatisation de 3 banques publiques, la poursuite du gel des salaires de la fonction publique pour la 3e année consécutive, la baisse des budgets de plusieurs ministères sociaux en parfaite concordance avec les mesures dictées par le FMI. Et les besoins sociaux des Tunisiens ne sont absolument pas pris en compte, y compris les plus élémentaires.
Autre exemple, avec la vague de froid qui s'est abattue sur tout l'ouest tunisien et qui a une nouvelle fois montré la défaillance grave de l'État, puisque une partie de la population a durement souffert de ce froid et même de la faim. Et puis dans la foulée, le bassin minier de Gafsar-Edeyev est de nouveau en ébullition, en réaction aux conditions sociales abominables auxquelles sont condamnés la majorité de ses habitants. Sans parler des dettes léguées par le régime de Ben Ali, qui continuent encore en 2015 à être remboursées par le peuple tunisien.
Et un axe de mobilisation dont on n'a pas parlé, c'est celui de l'environnement, qui n'est plus une préoccupation intéressante que les élites. Ce thème touche également une partie importante de la population, comme par exemple le problème des déchets sur l'île de Djerba, la pollution dans la baie de Monastir, celle des usines à Gabès et bien entendu dans le bassin minier. Et c'est comme ça dans tout le Maghreb. On peut citer la lutte des populations algériennes dans la région d'Ain Salah qui ne veulent pas de l'exploitation des gaz de schiste.
Alors, au bout du compte, force est de constater que les gouvernements en place depuis 3 ans n'ont pas été capables de formuler et de mettre en œuvre des alternatives pour répondre aux préoccupations des jeunes en quête de liberté et d'emploi, des femmes en quête d'égalité, des mouvements sociaux en quête de justice sociale. Bien au contraire, partout dans la région, la circulation des armes et la violence des extrémistes religieux s'enracinent. Les politiques néolibérales dictées par la Banque mondiale et le FMI sont présentées comme la seule solution et les mouvements sociaux et les mouvements démocratiques sont criminalisés. Dans ce contexte, que peut faire le FSM pour renforcer la voix des mouvements sociaux de la région ?
La solidarité internationale est impérative. On peut citer à titre d'exemple la solidarité avec les femmes marocaines victimes des arnaques des organismes de microcrédit dans le sud du pays, ou encore la solidarité avec les jeunes chômeurs du sud de la Tunisie, eux qui ont déclenché la révolution et qui souffrent toujours des effets des politiques ultralibérales appliquées par le gouvernement provisoire. C'est ce genre de solidarité dont les mouvements sociaux ont besoin et qui pourra éventuellement les amener à converger tous vers le Forum social mondial de Tunis de la semaine prochaine.
Alors on s'en rend compte, la tenue du Forum social mondial dans la région est plus qu'importante. Elle est nécessaire dans la mesure où elle permettra entre autres d'élever le niveau des consciences des citoyens en vue de se mobiliser davantage pour faire face aux injustices, aux inégalités et en faveur de la liberté et de la dignité des peuples. Le grand défi de cette deuxième édition du FSM en Tunisie, donc en 2015, sera certainement d'adapter la capacité à mobiliser les mouvements sociaux, aussi bien tunisiens que maghrébins, qu'africains et qu'internationaux. Alors, pour terminer, peux-tu me dire quelle sera l'implication d'Attaque France dans ce Forum social mondial de Tunis ?
Oui, le Forum social mondial de Tunis constitue une priorité pour Attaque en 2015, qui souhaite construire une forte délégation composée de plusieurs centaines d'adhérents d'Attaque. Différentes activités seront co-organisées par Attaque, par ses commissions, par des partenaires internationaux, notamment le réseau des Attaques du Monde, sur différentes thématiques. Les mobilisations contre les politiques d'austérité pour un audit de la dette, la transition écologique et sociale de nos sociétés, la lutte contre les gaz de schiste ou encore les grands projets inutiles et imposés et leurs alternatives.
Alors donc, les auditeurs de Galère intéressés peuvent se rapprocher du comité local de Marseille, d'Attaque. Et il existe aussi un site en plusieurs langues et qui dit tout sur le Forum social mondial de Tunis. C'est donc www.fsm2015.org. Je répète, www.fsm2015.org.
Bon, ben on s'écoute une vieille chanson de Salim Halali qui s'appelle « Sidi Bibi ». Tu vas me dire, mais qui c'est ce Salim Halali ? Eh ben quoi, tu connais pas Salim Halali ? C'est un des chanteurs cultes de la chanson judéo-arabe, un peu comme Lili Bodish ou Renette Loranaise. Lui a une histoire extraordinaire, parce qu'il a failli être envoyé par les nazis dans un camp, et il n'a dû son salut que grâce à l'intervention du recteur de la mosquée de Paris, Sikadour Ben Rabit, qui l'a fait passer pour un musulman, tout comme il l'a fait pour des centaines de juifs, du Maghreb, sous l'occupation, en montant un réseau clandestin de sauvetage des juifs. Alors on y va, cette fois-ci pour de vrai, avec Sidi Habibi.
Yeah.
arrive à la dernière partie de l'émission avec donc l'agenda d'Attaque Marseille en mars. Alors qu'est-ce que nous a contacté Attaque ce mois-ci ?
Bien, il y a une réunion publique autour de la situation en Grèce après l'élection de Syriza à la tête du pays. Une réunion qui aura lieu le mardi 17 mars à 18h30 au local d'Attaque Marseille, 29 boulevard Longchamp dans le 1er arrondissement. Cette réunion publique débutera par la projection d'un documentaire sur la Grèce. Bien entendu, c'est ouvert à toutes et à tous.
Il y a quelque chose d'autre de prévu donc ce mois-ci ?
Mais bien sûr, une projection au cinéma L'Alhambra à Saint-Henri, donc le jeudi 26 mars à 20h30 avec le film Le prix à payer. Alors ça raconte quoi ce film ? Eh bien ça parle de l'évasion fiscale à grande échelle, telle que les géants de la nouvelle économie la pratiquent, creusent l'écart des revenus entre les privilégiés et le reste du monde, appauvrit les classes moyennes et affaiblit les fondations de nos sociétés. On peut se demander si finalement le prix à payer n'est pas tout simplement la mort de la démocratie. Et la projection sera suivie d'une discussion animée par Attaque Marseille, donc le 26 mars à 20h30 au cinéma L'Alhambra.
Et c'est tout ou bien il y en a encore ?
Eh ben, quand il n'y en a plus, il y en a encore, puisque là, on se déplace vers Lumini, le campus où dans sa cafétéria, il y aura le 2 avril, à partir de 18h, une soirée des alternatives avec un super programme. Alors, on peut citer l'intervention des Colibris, des NERCOP, de la NEF, des Paniers Marseillais, d'Attaque Marseille, d'Alternativa, une projection des Déconomistes, une pièce de théâtre qui s'appelle « Traversée à haut risque à bord du taffetas ».
Voilà, on ne la ratez pas. Hein.
Et je connais l'actrice principale dans la distribution. D'ailleurs, il y aura une distribution, non pas d'actrice principale, mais de paniers bio aux étudiants. Un stand de livres qu'on ne trouve pas partout avec la librairie de l'Arbre. Donc c'est le jeudi 2 avril de 18h à 23h, la soirée des alternatives sur la campus de Lumini à la cafétéria.
Alors ce coup-ci, c'est fini pour de bon ou quoi ?
Non, allez, on en fait une petite dernière. Et après, on passera à autre chose. Donc c'est toujours sur le campus de Limigné, toujours à la cafétéria, mais cette fois-ci c'est le mercredi 8 avril à 20h avec un film, donc le dernier de notre cycle agriculture et alimentation. On va finir en beauté avec le film Super Size Me qui raconte les effets sur la santé d'un type qui mange pendant un mois chez McDo matin, midi et soir, bref. Tout ce qu'on aime. Alors, c'est gratuit, on peut même boire un coup sur place. C'est le mercredi 8 avril à 20h à la cafétéria du campus de Lumini. Ce sera suivi par une petite discussion avec trois médecins, dont une nutritionniste, sur ce qu'il faut manger, ce qu'il n'est pas bon de manger. Enfin, tout ce qu'on veut, quoi. Donc, ben voilà.
Eh ben alors, on va s'écouter une chanson qui est une reprise de San Francisco de Maxime Le Forestier. Sauf que là, c'est Idir qui la chante et ça s'appelle Tizi Ouzou. C'est la deuxième vie de Kabylie quand même, hein.
Eh bien, voici notre traditionnelle devinette. Alors, qui a dit, Christine, je cite, « L'argent, j'en ai eu beaucoup, la gloire, un peu, l'honneur, pas du tout. »
Je sais pas, moi. Alexandre Guérini, le frangin à Jean Noël. La farce du 13, qui a été incarcéré pour recel, blanchiment, détournant de fonds publics et autres balivernes.
Eh bien, tu te trompes, Christine. Tout ça, c'est du passé. Et Alexandre, depuis, s'est refait une virginité grâce à ses entreprises de traitement des déchets qui lavent plus blanc que blanc. Allez, je te donne une deuxième chance.
Ah ben ça, c'est gentil, alors. Hein. Alors, ce ne serait pas Olivier Brandicourt, le nouveau directeur du groupe pharmaceutique français Sanofi, qui vient de toucher comme prime de bienvenue la bagatelle de 4 millions d'euros. Alors, on appelle ça le golden hello, à ne pas confondre avec le parachute doré, le bonus ou la retraite chapeau, qui sont aussi des compléments de salaire de nos grands patrons qui les aident à boucler leur fin de mois.
Je vois que ça te met en forme, ça, de parler de Sanofi. Pourtant, Sanofi a supprimé 4000 emplois depuis 2009. 4000 emplois supprimés et 4 millions d'euros de primes de bienvenue au nouveau boss, ça fait 1000 euros par emploi supprimé. C'est pas mal, hein? Ben non, pourtant, ça pourrait être effectivement Olivier, mais ce n'est pas lui. Alors, je vais te le dire. Il s'agit de Bernard Tapie dans l'événement du jeudi du 4 juin 1994. Tu n'étais pas encore née, Christine, donc c'est normal que tu ne puisses pas t'en souvenir.
Oui, même ma fille, elle était déjà née
alors,
le 4 juin 1994. Mais comment tu peux nous ressortir des trucs pareils?
Bon, ça fait
tu
rien.
Tu gardes des archives.
Ça fait rien, ce bon vieux nanar dont la justice vient d'annuler l'arbitrage qui lui avait permis de remporter le litige qu'il opposait au Crédit Lyonnais et d'empocher au passage 404 millions d'euros en 2008.
Tiens, coïncidence, son fils aîné Stéphane vient juste de prendre la direction des activités numériques du journal La Provence. Ah, sacré nanar, une belle affaire de famille tout ça. Bon ben, très bien, hein, il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir. Cette émission sera rediffusée le mardi 17 mars à 14h et notre prochain rendez-vous aura lieu le jeudi 9 avril à 15h. Et nous ferons alors un point sur la situation en Grèce. Et quand je dis nous, ça sera plutôt Mathieu et Hervé.
Oui, parce que Mathieu revient.
Voilà, donc vous aurez le plaisir de retrouver votre duo habituel. Donc quand même au mois prochain. Hein. Et pour nous contacter, attaque, donc une seule adresse, accueil.marseille@attaque.org.
Eh bien voilà, salut Christine.
Salut Hervé.
C'était La Gueule Ouverte, le rendez-vous mensuel d'Attaque Marseille. On se retrouve le mois prochain, le deuxième jeudi du mois, de 15h à 15h30 sur Radio Galère. Allez, zou, bouleg, casse-toi, bye, bye.